Et nous poursuivons notre série de sermons de cet automne, Jésus change ma manière d'être. Le texte de ce matin est un long texte qui parle de la pureté. Et donc mon titre, c'est « La pureté vient de l'intérieur ». La pureté vient de l'intérieur. Voilà mon titre. C'est « Je dois dire mes sources ». J'ai entendu un très bon message cet été dans une autre église sur ce thème et ça m'a inspiré et j'ai même volé quelques idées à ce sermon où j'avais pris des notes. Donc, je l'avoue, mais la parole de Dieu demeure la parole de Dieu et les bonnes idées demeurent les bonnes idées. Il est question dans le texte qu'on va lire de laver nos mains avant de manger. On va voir les Juifs qui se lavent les mains avant de manger et aussi en rentrant de la place publique. Et il faut dire dès le départ, ce n'est pas pour eux, comme nous aujourd'hui, une question d'hygiène. Nous aussi, on est comme eux. On se lave, je pense, la plupart d'entre nous, on se lave systématiquement les mains avant de manger. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas tomber malade. C'est une question d'hygiène et de santé pour nous. Pour eux, c'était une question de pureté rituelle ou de sainteté, c'est-à-dire, je ne dois pas laisser quelque chose entrer en contact avec mon corps ou encore pire, entrer à l'intérieur de mon corps qui empêcherait Dieu de vouloir écouter mes prières, qui empêcherait Dieu de vouloir que je vienne dans le temple ou dans la communauté des croyants parce qu'il trouverait ça dégoûtant que je sois là parce que je suis rendu impur. Voyez-vous la différence? Ce n'est pas d'abord une question de santé. Pour eux, c'est une question de pureté. Et donc, comment ils voyaient la relation avec Dieu? Dans notre texte, Jésus nous apprend... Enfin, on va voir qu'il faut être focusé sur l'important. Donc, on va faire un exercice en ce moment d'être focusé sur l'important, sur les détails importants. Il s'agit du ballon de basketball. Alors, on va essayer de projeter cette vidéo. J'espère que ça va marcher. Il n'y aura pas de son. Vous allez, dans cet exercice, compter le nombre de passes. Écoutez bien, là. Écoutez bien. Nombre de passes. Voyez-vous qu'il y en a qui ont des chandails blancs? Le nombre de passes entre les joueurs blancs, en blanc. OK? Oubliez les noirs, et les chandails noirs, et regardez les chandails blancs, comptez les passes, puis après, je vais vous demander combien vous en avez compté. Est-ce que vous comprenez?
Oui.
OK. Alors, Pascal et Naomi, il faut arrêter la vidéo au bon moment, parce que la réponse, ils vont la flasher, puis je ne veux pas que les gens voient la réponse. Donc, quand vous voyez que les blancs quittent le terrain à droite, vous arrêtez la vidéo. On y va? Je ne sais pas si moi je peux... Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Non, OK, c'est vous qui allez partir la vidéo. Normalement, c'est supposé embarquer. Non, il n'y a rien. Ah, parce que... Est-ce que vous êtes connecté à l'Internet? OK. Oh. Oui. Peut-être en attendant, je vais commencer à lire le texte. On va, prions, puis on va commencer à lire le texte. On va finir par y arriver, mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Oui, Seigneur. Jésus, tu changes ma manière d'être. Tu fais un travail dans nos vies, dans ma vie. Donne-moi d'écouter ce matin d'une nouvelle manière. Écoutez le Saint-Esprit. Ne me laisse pas, Seigneur, être distrait par les défauts que je peux voir en moi-même ou chez les autres, ou dans la salle ou autre, mais donne-moi d'être attentif à toi, Saint-Esprit, à travers la parole que Jésus nous a enseignée. Amen. Alors, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner à Marc 7. Ah, OK, non, je pense que on va regarder la vidéo d'abord. Donc, comptez les passes. Comptez les passes. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et comptez pas à voix haute parce que votre voisin va tricher sur vous. Donc, ça dit, comptez les passes de l'équipe en blanc. Stop la vidéo. OK. Bon. Qui a compté 14 ou moins? 14? 15. Qui a compté 15? 15, OK. Qui a compté 16? Oh, wow! Et qui a compté 17? Plus que 17. OK, on repart la vidéo. 16. Bon. Alors, bravo. Vous étiez attentif aux détails, à la chose que je vous ai demandé. Par contre, avez-vous remarqué des choses bizarres? Quoi? Un gorille? Qu'est-ce que tu allais dire, Ève? OK, il y a eu des passes très courtes, presque données, oui. Et il y avait quelque chose d'encore plus évident. Un gorille qui passe, l'avez-vous vu? La moitié, c'est un test d'attention sélective, donc de psychologie. La moitié des gens ne voient pas le gorille. Avez-vous remarqué aussi... le rideau change de couleur? Avez-vous remarqué qu'il y a un joueur chandail noir qui sort au début du match? Wow! Il y en a qui sont bons, mais c'est des détails que si tu ne regardes pas, tu ne les vois pas. Alors, on va voir la reprise de la vidéo. Regardez attentivement. Donc, il n'y a pas de son, mais quand le son, c'est comme... C'est comme, tu sais, le rewind dans les films. Voilà. C'est expliqué en anglais ce que je viens de vous dire, là. Et là, rewind. Alors, imaginez un son rewind. Voilà. OK. Là, ça part, voyez-vous. Il y a une joie noire qui sort, le gorille qui passe, et regardez le rideau qui était rouge au début. Bon. Imaginez, oui. Dans la vie spirituelle aussi, on a une attention sélective, mais est-ce qu'on est focusé sur les bons détails? Lisons le texte maintenant. J'aurais besoin d'aide de quelques aidants et peut-être venir au micro. En fait, je vais enlever ça parce que ceux qui vont lire avec moi, y a-t-il quelqu'un qui aimerait m'aider? C'est ça, comme on enregistre, on va peut-être... lire dans le micro pour qu'on puisse enregistrer la lecture. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait m'aider? Oui, viens. Peut-être à deux, on pourra se débrouiller, là. Oh, OK. Mais j'ai le texte ici. Ah oui? OK, d'accord. Alors, tu peux commencer.
Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem. Il n'y a plus de son? Ah, voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ah,
juste
ça fonctionne pas
lire.
Toujours. OK. Ils sont lavés. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils revinrent de la place publique, ils ne mangeaient pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze.
Alors, les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » Car vous lavez avec les pots et les coupes, vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables.
Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement. Oui, excusez, je me sens tirée. Faut pas que tu t'éloignes de moi. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables.
Ensuite, Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi, « Tous les aliments sont purs. » Il dit encore, « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Amen. Bon. Alors, la leçon clé de ce matin que je vous propose à partir de ce texte, c'est ceci. Si je suis sensible à la présence de Jésus dans une situation, tout devient pur dans cette situation. Si je suis sensible à la présence de Jésus dans une situation ou une relation ou un problème, tout devient pur dans cette situation, dans cette relation, dans ce problème. Je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire par là en m'appuyant sur la parole de Christ. En fait, je vous avertis à l'avance aussi, mon message va être plus court que d'habitude et on va avoir un peu de temps pour discussion en groupe après sur une question qui sort du texte. Préparez-vous à partager. Mais voilà l'idée de base, l'idée glorieuse qui sort du texte. Et il y a trois réalités qui me poussent à dire cela. Trois réalités qui viennent du texte. Premièrement, ce texte est une invitation à reconnaître mon problème. Mon problème. Parce que les scribes et les pharisiens, ils ont le mauvais rôle dans ce texte. Ils sont critiqués dans ce texte, mais moi, en tant que, qu'être humain, ce texte va me faire du bien dans la mesure où je me rends compte que je suis comme eux. J'ai la même tendance. Je participe, après tout, à la même condition de pécheur que tous les humains, donc eux aussi. On a vu, quand on a étudié les premiers chapitres de la Bible, que le péché est une force et une maladie dans le monde et qui s'est inscrite dans nos cœurs, qui fait qu'on est égoïste et qui fait qu'on a une tendance à nous rebeller contre la relation avec Dieu, notre Créateur. Égoïsme et rébellion. Et avec ça vient une difficulté pour chacun d'entre nous de regarder vers l'intérieur, regarder vers mon cœur. Il y a un refus de regarder vers ce qui se passe vraiment à l'intérieur de mon cœur. Et pour compenser, mes regards vont être portés vers l'extérieur. Je vais critiquer l'extérieur. Je vais critiquer les autres autour de moi. Et c'est ce qui arrive dans le, on va dire, le phénomène de la religion humaine qui est inscrite à l'intérieur de chacun de nous. On crée des lois, des frontières et des beaux principes pour garder les choses mauvaises à l'extérieur de moi. C'est ça notre focus. Et en gardant ces choses à l'extérieur de moi, j'essaie de rester pur à mes propres yeux. Et même les gens aujourd'hui non religieux, les gens qui sont contre la religion, dans, à leur manière, ils font la même chose parce qu'ils ont le même cœur. Donc, ils vont avoir des principes. Ils vont dire, je vais être fidèle à moi-même sans la religion, je vais avoir des principes de vie. Et finalement, ils finissent par voir les problèmes chez les autres, à moins qu'il y ait une transformation du cœur qui vienne. Mais nous, dans le milieu religieux, on va dire, on le fait aussi, même nous qui connaissons l'Évangile de la grâce, le fait qu'on est sauvé, pas par nos œuvres, mais par la grâce, on le fait aussi. Je vais vous raconter une histoire embarrassante pour moi, mais qui a été très marquante dans ma vie. J'étais un jeune chrétien et une jeune personne dans la vingtaine, et à un moment donné, j'animais un groupe de prière. On était assis en cercle avec des chaises, on priait, il y avait des chaises et des divans. Puis il y avait une jeune fille que je connaissais très bien qui était assise sur un divan où il y avait beaucoup de coussins, puis elle était comme penchée par en arrière quand elle priait. Puis moi, parce que j'avais le zèle de l'Éternel, j'ai comme interrompu la prière. Je dis, mets-toi droite parce que tu parles au Dieu Saint. Je pensais que je la coachais de la bonne manière. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Écoutez bien ça. Elle me dit, « Marc, toi, est-ce que tu sais comment je suis devenue chrétienne? J'étais assise dans une toilette publique. J'étais complètement découragée de ma vie. Et j'ai commencé à prier. Je me dis, s'il y a un Dieu, il a besoin de m'aider parce que je suis au bout de mon rouleau. Je lève les yeux, il y avait un graffiti sur la portière du cubicule qui disait, « Jésus est mort pour tes péchés. » Et là, j'ai entendu pour la première fois de ma vie Dieu qui me parlait. Puis ça a été jusqu'au fond de mon âme. Ça l'a changé. Ça l'a changé ma vie. Et j'ai reçu Christ dans cette toilette publique. Fait que si Dieu a choisi cette position que j'étais pour me parler en puissance, qui es-tu, toi, de me dire de me tenir droite pour prier? Ça s'appelle boucher un coin à un pharisien, puis pas à peu près. Bon, mais Dieu, dans sa grâce, il m'a parlé et j'ai compris quelque chose que je savais déjà, mais que je me cachais à moi-même parce que j'ai le même problème que les pharisiens. Moi aussi, je regarde les ballons de basketball comme eux, et je ne vois pas le gorille qui sort de mon cœur, le gorille qui juge les autres, qui se met en orgueil devant les autres et dans la religion. Mon manque d'amour, mon regard envieux envers ceux qui peut-être performent mieux que moi dans la religion. Mes mauvais désirs. Peut-être que quelqu'un vient à l'Oasis et je vais dire, « Ah, je suis content qu'elle vienne ici, mais pour des mauvaises raisons. » Avec tout ça, ce qui sort de mon cœur, c'est une vision petite de Dieu. C'est une idolâtrie, finalement, quand on imagine Dieu mesquin, méchant, comme moi je le suis. Il faut que je reconnaisse mon problème. Jésus a dit aux pharisiens, mais c'est à chacun de nous de lire ces invectives de Matthieu chapitre 23 qui sont aussi pour nous, pour changer notre manière d'être. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites et chrétiens évangéliques qui avaient encore l'ancienne nature. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Focus sur l'extérieur, ce n'est pas le bon focus. Le gorille est à l'intérieur. Et justement, Jésus, c'est mon deuxième point que je voulais ressortir du texte. Jésus me dévoile le gorille qui sort de mon cœur. C'est ça qui est dur à accepter. Il y a des choses horribles qui sortent de notre cœur et on devient des chrétiens dynamiques et aimants en ayant la force de les regarder. Avec Jésus qui nous tient la main, bien sûr. Jésus est lumière. Il a dit, « Je suis la lumière du monde. » Il vient et quand il entre en nous, il met la vérité sur nos façons de penser humaines, nos façons de penser pécheresses. Puis c'est toujours dans l'amour. C'est toujours dans l'amour, il vient pour nous guérir, nous pardonner, nous purifier. Aucun péché n'est un problème pour lui. Je ne veux pas que quelqu'un se décourage en disant, « Mais Marc, tu as raison, il n'y a que des gorilles qui sortent de mon cœur. » Je suis bon à rien, je suis bon à rien. Non, aucun péché n'est un problème pour Jésus. Écoutez bien ce que dit l'apôtre ici. Ici, c'est Jean. Si nous reconnaissons nos péchés, et c'est parfois traduit, si nous confessons nos péchés, donc se mettre d'accord avec Jésus sur ce qui sort de mon cœur. Des fois, c'est juste une tentation. C'est comme une idée que si on la reconnaît à temps, elle ne devient pas péché. Mais on en parle à Jésus quand même, qui veut qu'on la reconnaisse. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Il pardonne, donc on ne sera pas puni pour, parce que c'est lui qui a été puni à notre place sur la croix. Il nous purifie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il me purifie. Je pense que ça veut dire que dans des situations passées où cette faiblesse-là, ce péché-là t'amenait à pécher, eh bien, Jésus te purifie. Donc, il te rend apte à être à nouveau dans cette situation ou une situation semblable et à aimer au lieu de pécher. Voyez-vous, ce n'est pas d'abord de fuir la situation, ça peut l'être, mais quand on est purifié, on est aussi rendu apte à aimer dans la situation qui, avant, nous conduisait à penser mal ou à agir mal. Jésus veut nous rendre efficaces, il veut nous mettre à l'œuvre, et c'est dans ce sens qu'il nous purifie. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Êtes-vous d'accord avec moi? J'arrive à mon dernier point par rapport au texte. Dans ce texte, on voit que Jésus change mon regard. Il veut changer notre regard. Il veut changer notre regard sur le monde extérieur, les situations, les gens. Les scribes et les pharisiens, Le texte nous dit qu'il y en a qui sont venus de Jérusalem. C'est 200 kilomètres. Ils sont venus pour être avec Jésus. En tout cas, c'est comme ça que je comprends le texte. Mais on pourrait se dire, mais certainement qu'ils sont venus 200 kilomètres. Jésus allait dans les places publiques. Il guérissait des malades. Il chassait des démons. Il annonçait le salut et le royaume et les gens venaient à Dieu. Parfois, il n'y avait pas de nourriture. Il en créait miraculeusement. Il nourrissait les foules. C'est bien sûr que le monde viendrait de 200 kilomètres pour être dans sa présence puis goûter à ce qui se passe. Mais on voit qu'eux ne sont pas venus pour être avec lui vraiment. Ils sont venus, puis qu'est-ce qu'ils font? En fait, qu'est-ce qu'on les voit faire dans ce passage? Critiquer. Ils sont venus pour peut-être pour le piéger, et puis ils ont trouvé le truc. Ah, tu l'as laissé manger, lui, sans se laver les mains, selon la tradition. Mais en réalité, c'était cave, qu'est-ce qu'il disait. Parce que, je veux dire, Jésus était tout le temps en train de faire du bien dans les places sales, dans les lieux publics. Il mangeait avec du monde impur rituellement et probablement sale aussi. Et il faisait des choses miraculeuses pour faire venir le royaume de Dieu là où il n'y avait que désespoir et péché. Mais les scribes et les pharisiens, ils ne comprenaient pas, ils ne le voyaient pas, ils regardaient aux mauvais détails. Et ce que je disais au début, c'est que nous, on doit réaliser, quand Jésus est quelque part, tout devient pur, tout devient possible. Là où il y a désespoir, mais si Jésus est là, l'espoir est là. N'aie pas peur du pécheur. N'aie pas peur du pécheur, parce que si Jésus est là, Jésus veut sanctifier ce pécheur, et peut-être à travers toi. C'est pour ça qu'il te dit, tu es le sel de la terre. Cache-toi pas sous une chaudière. Va dans le monde. Comprenez-vous la logique? Et justement, si tu as reçu Christ dans ta vie, c'est à travers toi que Jésus veut amener le royaume dans cette situation, qui peut-être autrefois, tu dédaignais d'y aller parce que tu te disais, c'est impur, Jésus n'est pas là. Mais il y a peu de places où Jésus ne va pas aller. Il veut aller partout. C'est pour ça qu'on envoie des missionnaires partout, et particulièrement là où il y a le moins de chrétiens, pour que le royaume vienne. Vous savez qui a dit ça? Qui a écrit ça? Tout est pur pour ceux qui sont purs. Est-ce que vous avez déjà vu ce verset dans la Bible? Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais c'est l'apôtre Paul dans Tite 1, 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc, l'idée, c'est, ça se peut que tu doives te retirer de quelque chose pour un temps parce que tu vois, mais je ne suis pas capable de ne pas pécher, de ne pas juger, de ne pas envier ou autre. Mais il y a des situations où Dieu va te rappeler pour aimer, pour être son témoin. Cela s'applique pas juste aux aliments, ça c'est un exemple bien circonscrit de notre texte, mais ça s'applique à nos vies. On peut dire aussi par rapport à nos élections qu'on a eues, que oui, il peut y avoir parmi nous, dans la population, une crainte par rapport à beaucoup d'immigrants qui viennent au Québec. Il peut y avoir cette crainte. Mais l'appel du chrétien, c'est de saisir l'opportunité d'aimer ceux qui viennent à nous. Je pense aussi que ça s'applique à ma posture dans l'oasis. Peut-être que tu te sens mal à l'aise à l'oasis par rapport à la manière de prier des autres, la manière de s'habiller des autres. Peut-être peut-être la salle elle-même. Ce n'est pas ce que tu imagines comme étant quelque chose qui rend gloire à Dieu. Peut-être c'est la manière que telle personne anime un cantique quand il chante. Tout ça, c'est des choses extérieures. Mais regarde ce qui se passe dans ton cœur pour pouvoir être la présence de Christ à l'Oasis aussi. Bon, voilà, j'ai assez parlé. Je vous rappelle l'idée de départ que quand tu te rends compte que Christ est présent dans une situation, tout devient pur et tout devient possible dans cette situation. On va maintenant se diviser en petits groupes de trois et vous allez partager dans ce groupe, trois ou quatre. Sentez-vous libre aussi, peut-être c'est bien de vous mettre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et la question, vous allez partager en réfléchissant à ta vie, tu vas partager une situation où Jésus est en train de remplacer ton désir de ne pas t'engager ou ton désir de te tenir éloigné par une attitude d'amour. Ça peut être peut-être quelque chose qui est arrivé dans le passé, mais si tu as du courage, parle de quelque chose que tu vis maintenant, peut-être un défi pour lequel le groupe pourrait prier pour toi. Une situation dans ta vie où tu penses que Jésus veut remplacer ton désir de ne pas t'impliquer, de ne pas t'engager, par une attitude d'amour. Est-ce que vous comprenez la question? Non? Bon. Hein? Oui. Alors, partage dans ton groupe une situation que tu vis où Jésus est en train de remplacer ton désir de ne pas t'engager dans la situation par une attitude d'amour. Je donne un exemple très simple. Admettons que tu as un voisin qui fume beaucoup. Puis toi, tu détestes l'odeur de la cigarette, admettons. Donc, sans réfléchir, tu te dis, mais moi, je me garde loin de cette dame-là ou de ce monsieur-là. Parce que j'aime pas la cigarette. Puis, quand je suis avec elle, j'ai juste le goût de partir. Mais Jésus, lui, quelle est son attitude face à ce voisin ou à cette voisine? Cette attitude-là, c'est toi qui peut-être est, ou sûrement est appelé à la voir. Voyez-vous, un changement d'attitude dans une situation de ta vie. Ça peut être quelque chose qui est arrivé dans le passé, quelque chose qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est clair?
Oui.
OK. Alors, on va prendre 10 minutes de discussion en groupe. Vous pouvez vous mettre dans des groupes de 3 ou 4. Et puis, on va clore après.